don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达米加
正忙着正忙着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Antoine Dulster, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson et mise en onde par Jean-Frédéric. On va poursuivre notre série consacrée au conservatisme, on va se pencher sur les formes prises par le conservatisme dans le domaine de l'économie. On le disait hier, les conservateurs se retrouvent autour de certaines valeurs morales, du rejet de l'intervention étatique, en philosophie politique, le libéralisme affirme la liberté comme principe suprême, duquel découle un certain nombre de corollaires, la responsabilité individuelle, la limitation du pouvoir souverain. Le libéralisme économique défend donc l'initiative privée, la libre concurrence et le marché, les seuls éléments permettant d'apporter la liberté et l'égalité pour celui qui fut l'une des grandes figures centrales de cette révolution néolibérale, Milton Friedman. À l'heure où les critiques ne cessent de se multiplier à l'endroit du néolibéralisme et de ses conséquences sociales et sociétales, nous allons revenir sur cette pensée, ses origines, ses figures, ses influences, son poids sur les responsables politiques également. Né en opposition au keynésianisme et autour de Milton Friedman, ce courant qui porte cette pensée économique, c'est l'école de Chicago. La première fois que cette école eut l'occasion de passer de la théorie à la pratique et d'en tester l'efficacité, ce fut au Chili. C'est le premier grand test pour l'école de Chicago. Retour d'expérience de Milton Friedman lui-même.
Chile was a case in which
La situation du Chili était un cas où le régime militaire dirigé par Pinochet souhaitait pouvoir transformer l'organisation économique pour la faire passer d'un rendement minimal à une performance maximale. Et dans ce processus, un groupe de personnes formées à l'Université de Chicago, dans son département économique et qu'on a connu ensuite comme les Chicago Boys, ont joué un rôle majeur dans la conception et l'application des réformes économiques au Chili. Le vrai miracle au Chili n'est pas que les réformes économiques aient si bien marché. Le Chili est bien sûr la plus éclatante success story en Amérique latine aujourd'hui. Le vrai miracle, c'est qu'une junte militaire ait voulu laisser faire ses économistes. Comme je l'ai dit pour commencer, le principe de l'armée est un commandement vertical, du haut vers le bas. Le principe du marché, lui, fonctionne du bas vers le haut. Donc c'est vraiment un miracle qu'une junte militaire ait souhaité laisser la main à une stratégie qui se faisait par la base. Ce processus a finalement conduit à des élections qui ont mis fin à la junte et maintenant vous avez un gouvernement démocratique.
Un miracle économique peut-être, sauf qu'il s'est déployé dans le cadre d'une dictature et que les conséquences économiques et sociales pour le peuple chilien furent terribles. D'ailleurs, Friedman s'est régulièrement expliqué à ce sujet, se défendant d'avoir soutenu directement Pinochet et son régime. Quoi qu'il en soit, les Chicago Boys sont devenus les figures emblématiques de ce qu'on appelle le libéralisme, courant économique, politique, dont le nom a ressurgi en Europe peut-être de manière plus nette encore, avec cette crise grecque de 2010, à travers la Troïka d'abord, les créanciers de la Grèce, FMI, Banque mondiale, Banque centrale européenne, à travers les mesures de sauvetage des banques systémiques, ou encore à travers les négociations pour le traité transatlantique, il s'agira de moins de faire l'éternel procès du néolibéralisme que de comprendre de quoi il est fait, par qui il a été pensé, d'où il vient et peut-être où il va également. On ira du côté de l'Allemagne. Son ministre des Finances depuis 2005, Wolfgang Schäuble, a pris une part active aux négociations, en tête à tête souvent avec le ministre Varoufakis. Il est un partisan de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand. On essaiera de comprendre les différences avec le néolibéralisme. On retrouvera tout à l'heure Patricia Comin. Et puis nous irons également du côté de l'Amérique latine, en fin d'émission, certains n'avaient pas hésité à parler de surprise pour décrire le dernier tournant des gauches sud-américaines ces 15 dernières années, mais les choses tournent peut-être à nouveau dans l'autre sens, notamment avec l'arrivée de Macri en Argentine. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à un retour en force du néolibéralisme? Avait-il seulement disparu pendant l'ère Kirchner? On verra ça tout à l'heure avec Carlos Kenan. Mais pour nous éclairer sur cette émission du jour, dans le sillage des Chicago Boys, où le néolibéralisme à l'épreuve, nous avons invité ce matin Paul Jorion. Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, sociologue, auteur notamment de Penser tout haut, l'économie avec Keynes, qui était paru chez Odile Jacob, dont on parlera probablement tout à l'heure, mais aussi la crise du capitalisme américain, dans lequel vous aviez d'ailleurs annoncé cette crise des subprimes. L'expérience chilienne, Paul Jorion, on est dans les années 50-60. Les entreprises américaines s'inquiètent beaucoup des investissements, de leurs investissements, parce que l'économie du Chili se porte très mal. Le département d'État américain décide de faire venir des jeunes économistes chiliens à Chicago pour leur enseigner tous les bienfaits de l'économie libérale. Ces Chicago Boys reviennent au pays, à l'Université catholique de Santiago. Ils montent un département d'économie, ils diffusent ces nouvelles théories. Évidemment, il faut redire peut-être que les États-Unis soutiennent l'arrivée au pouvoir de Pinochet, notamment par l'intermédiaire de la CIA, mettant ainsi quand même fin à quasiment quatre années de décennies de démocratie. Et ces fameux économistes chiliens remettent à Pinochet un programme, 500 pages, un document qu'on a appelé la brique, qui va servir de feuille de route. Fin du contrôle des prix, privatisation des entreprises publiques, suppression des taxes à l'importation, coupe dans les dépenses budgétaires. C'est une catastrophe pour la société chilienne, je le disais, qui va souffrir énormément. Et on peut aussi d'ailleurs s'interroger sur son efficacité sur le plan économique, parce que 3 ans plus tard, on a une inflation qui s'élève à 375%. Paul Jorion, le premier coup d'essai de l'école de Chicago, c'est pas un coup de maître.
Non, on peut discuter les chiffres économiques, mais la vérité là, qui se cache derrière ce fait, c'est ce que vous avez dit, c'est que cette idéologie de l'ultralibéralisme, et si on veut, on peut distinguer les différentes nuances au sein de ce néolibéralisme, mais l'univers dans lequel elle peut se déployer et tenter ses expériences, c'est dans le cadre d'une dictature militaire. Et là, c'est pas par hasard, ça ne veut pas dire qu'on aurait pu faire ça dans n'importe quel cadre. Vous avez mentionné le nom de Milton Friedman, mais son maître von Hayek, c'est lui le grand fondateur de l'école de Chicago. Il vient de ce qu'on appelle l'école autrichienne. Mais c'est un monsieur qui se rend au Chili au moment où Pinochet a pris le pouvoir. Et c'est quelqu'un qui fait une déclaration à la presse, dont on a le texte, ça n'a jamais été démenti, qui dit entre un régime démocratique et non libéral, il fait référence à, bien entendu, à la tentative de Salvador Allende, qui vient d'être assassiné. Si vous voulez, la tentative se termine de manière sanglante, entre un régime démocratique et non libéral et un régime non démocratique et libéral, je préfère le régime non démocratique et libéral. Et là, je veux dire, il trahit cette idéologie en montrant que c'est une idéologie antidémocratique. Et le seul univers dans lequel elle a pu se déployer et obtenir un semblant, comme vous le dites, un semblant de succès au départ, c'est dans le cadre d'une dictature militaire. Alors que les défenseurs de cette théorie, les von Mises, les von Hayek, etc., se sont situés dans un univers où leur grand ennemi, c'était le communisme soviétique, qu'ils appellent totalitarisme. Et quand une expérience se met en place, ils n'hésitent pas une seconde. C'est pas le mot totalitarisme qui leur fait peur, puisque on lance cette expérience dans le cadre d'un Chili, dans une dictature militaire. Il faut dire que c'est aussi que ces Chicago Boys, ils sont là depuis pas mal d'années et n'ont aucun écho ni dans la presse ni ailleurs. Il faut le coup d'État organisé par les États-Unis. Il faut bien, les États-Unis le reconnaissent maintenant. C'est pas de la médisance ou de la calomnie. Non, il y a un coup contre Salvador Allende, contre ce régime démocratique, organisé par les États-Unis, et on fait avancer au premier rang ces économistes. Et leur bilan, oui, il est mitigé. On parle de croissance de 1,5%, mais que vaut une croissance de 1,5% alors que 30 000 personnes sont torturées, alors que 80 000 prisonniers politiques, alors que des milliers de personnes sont assassinées. Est-ce que c'est ça le cadre dans lequel on veut vivre? Oui, ce système peut être expérimenté à l'intérieur d'un gouvernement, je dirais, peut-être le pire qu'on puisse imaginer.
Et par ailleurs, on parle du Chili, mais en réalité, ces Chicago Boys, ils vont aussi décrocher des postes au sein de d'autres gouvernements. Je pense à celui du général Videla en Argentine, je pense également au Brésil, sans s'en rendre compte finalement, et sans le vouloir, vous avez raison de le rappeler. Cette politique économique, elle va avoir des effets politiques absolument dévastateurs.
Oui, mais il faut savoir, c'est un projet politique, effectivement. Le lien avec la science économique, finalement, il est assez ténu. C'est un projet de société. C'est un projet de création de néo-féodalisme sur la base de l'argent. L'ancienne féodalité, c'était bien sûr sur la base de la possession de terres, propriétaires terriens. Et là, ils veulent recréer la même chose sur la base de l'argent, de la capacité des gens à faire de l'argent. Et celui qui n'arrive pas à faire de l'argent, eh bien, malheureux vaincu, c'est une politique d'élimination. Dans le cadre du Chili, on sait la concentration de la richesse, la disparition de toute représentation syndicale, évidemment dans le cadre d'une dictature militaire, il y a concentration de la richesse au sommet.
Et en réalité, ce qui est intéressant dans ce néolibéralisme, c'est qu'il n'est pas le signe d'une forme de radicalité, de radicalisation dans les affaires économiques. En réalité, vous l'avez un petit peu dit, c'est une réponse à une crise, et notamment à une crise politique. Ce nouveau libéralisme, c'est une réponse au fascisme, c'est une réponse au communisme. C'est dans un contexte politique particulier qu'il naît, il faut le rappeler aussi.
Oui,
c'est ça les véritables ennemis, finalement, du néolibéralisme au départ.
Oui, oui, c'est le socialisme, c'est le socialisme. Quand on pense à von Mises dans les années 20, il commence par écrire un livre sur le socialisme, il est plus ou moins mitigé, et puis le socialisme devient sa bête noire. Il faut bien dire que ces gens-là, il ne faut pas imaginer qu'ils ont une carrière universitaire linéaire. Des gens comme von Mises, des gens comme Mark Loop qui introduira ce type de pensée aux États-Unis, ce sont des gens qui sont soutenus essentiellement par des organisations patronales et par des chambres de commerce. Il faut bien le savoir, ça vient de l'extérieur. Ça n'est pas au sein des facultés d'économie. Oui, von Hayek est nommé à London School of Economics, etc., mais il n'est pas quelqu'un, je dirais, de premier rang. Non, ce sont les organisations patronales, ce sont les milieux d'affaires qui vont faire de cette pensée, vont en faire l'orthodoxie en matière économique. Ce sont ces gens qui, se réunissant entre eux, vont créer aussi le prix Nobel d'économie. Et puis on nous dit, oui, les gens, les fondateurs, la société du Mont Pèlerin en 1947, il y a énormément de prix d'économie, de Nobel d'économie parmi eux, mais bien entendu, ce sont les mêmes. Ils ont créé le prix de Nobel d'économie et ils se sont attribués. Et ils continuent d'ailleurs, ils continuent de le faire.
Il faut expliquer ce que c'est cette société du Mont Pèlerin. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et on crée, alors c'est des économistes, c'est notamment bien sûr von Hayek qui est à l'origine de tout cela. On est dans un village suisse, on a des économistes, des intellectuels qui se réunissent pour promouvoir le libre marché, la société ouverte. La société ouverte à l'échelle nationale.
Oui, la société ouverte parce que il recrute Karl Popper qui est un penseur un philosophe des sciences et un épistémologue et qui est proche de ces courants-là. Et il avait écrit d'ailleurs un livre sur la société ouverte qui était une défense d'une démocratie organisée sur le marché.
C'est une société qui a beaucoup de cette société du Mont Pèlerin qui a beaucoup d'influence aujourd'hui encore.
Oui, bien entendu. On continue de recruter des prix Nobel d'économie parmi ses membres, dont la plupart ne sont pas connus du public autrement que par le fait qu'ils appartiennent à cette société. Non, elle est encore très influente, elle est présente à Davos en particulier. Au départ, c'est une sorte de société secrète. Et qui est-ce qui finance ça? Ce sont les milieux d'affaires suisses. Ce sont des grandes entreprises suisses qui financent cette entreprise, qui n'est pas fondée sur une réflexion économique d'un type particulier. Non, c'est un projet de société. C'est une utopie de droite, c'est pas une façon de les qualifier, c'est comme ça qu'ils se situent eux-mêmes, c'est une utopie de droite fondée sur la capacité de chacun à créer de l'argent. C'est une idéologie du pouvoir, celui qui peut l'emporter sur le pouvoir peut se débarrasser de tout le monde, et le fondement de ça, c'est un fondement du marché. Le profit du marchand, eh bien, comme vous le savez, il n'y a pas de limite. Si on peut vendre un produit, il n'y a pas de limite au profit, et dans cette idéologie, le profit, même illimité, c'est le reflet objectif du talent de la personne qui l'exerce. Plus vous pouvez rouler vos contemporains, plus vous avez du talent, et c'est sur cette base-là qu'on va créer une idéologie. Mais ce ne sont pas, il ne faut pas croire que ce soit des imbéciles, ce sont des gens intelligents, des gens comme von Mises, von Hayek, ce sont, je dirais, des génies, mais ce sont des gens qui savent ce qu'ils font et qui raisonnent bien et qui peuvent convaincre.
Vous diriez que la création de la société du Mont Pèlerin, c'est l'acte de naissance du néolibéralisme comme on le connaît aujourd'hui?
Il y a un prédécesseur, c'est le colloque Lippmann en 1938 qui se passe à
Walter
Paris.
Walter Lippmann, journaliste américain.
Journaliste américain qui est un libéral, je dirais, de type classique, c'est-à-dire non pas un antidémocrate, c'est un démocrate. Il y a la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme de type hayekien, l'ultralibéralisme, pour le différencier aussi de l'ordolibéralisme qui est un régime, qui est une pensée démocratique elle aussi. La rupture, c'est entre le démocratique et non démocratique. L'ultralibéralisme, Friedman, Hayek, von Mises, est antidémocratique. Ils se fichent des élections, ils essayent d'éliminer l'État-providence. C'est un projet de société, il faut bien appeler les choses par leur nom, d'extrême droite. Alors que le libéralisme, non, c'est droite, c'est entre droite, c'est honorable. L'ultralibéralisme n'est pas honorable.
Allez, on fait un saut dans le temps, début des années 80.
Mr. President, I want our fellow citizens to know how much you did to carry on this tradition. By your gracious cooperation in the transition process, you have shown a watching world that we are a united people, pledged to maintaining a political system which guarantees individual liberty to a greater degree than any other. And I thank you and your people for all your help in maintaining the continuity which is the bulwark of our republic.
Hey, la liberté individuelle, la plus grande force, la plus grande valeur pour Ronald Reagan, qu'il avait mis au cœur de son discours d'investiture, parce qu'aux États-Unis, on parlait tout à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale, on est dans une culture globalement social-démocrate très forte, et puis c'est les années 60 finalement qui vont voir l'émergence de ce conservatisme porté par un certain nombre de responsables politiques. On a parlé lundi de Barry Goldwater, candidat républicain malheureux à l'élection de 64, qui va perdre devant Johnson, et c'est Reagan qui va faire finalement triompher ce conservatisme dans les années 80. On est aussi du côté de la Grande-Bretagne, il y a une époque où une autre conservatrice, bien sûr Margaret Thatcher, arrive au pouvoir, 79. Quelle filiation est-ce qu'on peut établir entre Friedman, Hayek et puis ces responsables politiques conservateurs comme Thatcher et Reagan?
Ce sont des gens qui sont acquis à cet ultralibéralisme. On a aussi Monsieur Greenspan qui sera pratiquement 20 ans à la tête de la Federal Reserve, qui est un grand fanatique de Ayn Rand, qui est une Russe d'origine, qui fuit le stalinisme, et elle a bien raison de le faire, mais qui crée cette idéologie ultralibérale qui aura la sympathie de ces mouvements de l'école de Chicago. Oui, des gens comme Thatcher, des gens comme Reagan sont véritablement, ce ne sont pas, je dirais, des présidents ou des premiers ministres potiches, ce sont des gens qui sont acquis à une idéologie d'extrême droite et qui, si vous me permettez,
je vous en prie.
Voilà. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je me trouve sous Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a une tentative délibérée de l'élimination des sciences sociales dans leur ensemble. On coupe le financement de tous les départements qui font des sciences sociales parce que les sciences sociales, c'est considéré comme l'ennemi. Et je fais partie d'un collège à Cambridge qui s'appelle Pembroke. Je suis un jour à la table d'honneur à midi à côté du chapelain. Et le chapelain me dit la chose suivante. Il me dit, c'est vous qui vous occupez de nos étudiants anthropologues, n'est-ce pas, etc. Ah, l'anthropologie, la sociologie, dites-moi, est-ce que ce n'est pas le nom, je réfléchis, est-ce que ce n'est pas le don qu'on donne au communisme quand on essaie de l'enseigner dans les universités? Ça, c'est l'époque. Et quand je perds mon poste là-bas, dans ces circonstances-là, on me promet un poste aux États-Unis, à Chicago précisément, qui était aussi dont le financement est coupé à la même époque. Là, maintenant, c'est du côté de Reagan, parce qu'on essaie de se débarrasser, et ils ont raison de leur point de vue, se débarrasser des gens qui seront la contestation de leur type d'idéologie antidémocrate, je le répète une fois de plus.
Et est-ce que vous avez le sentiment que les temps ont changé? Est-ce que dans le monde universitaire, il y a encore cette bataille féroce aujourd'hui?
Ah ben oui, parce que si on parle par exemple des sciences économiques en France, on est parvenu à éradiquer entièrement toute opposition, ce qui est très différent par exemple des États-Unis où on peut imaginer que la situation serait pire. Non, pas du tout. Aux États-Unis, vous avez des prix de Nobel d'économie comme Monsieur Krugman ou Monsieur Stiglitz, qui sont des gens de gauche, peut-être pas d'extrême gauche, mais qui sont des gens de gauche. Mais alors qu'en France, il n'y a plus d'opposition de ce type-là. On est parvenu à... Vous savez, il y a une tentative récemment de créer un département où on envisagerait la science économique de manière, je dirais, plus classique pour les politologues, les sociologues, les anthropologues. Et M. Tirole, qui venait de recevoir un prix de Nobel d'économie parce qu'il fait partie de cette petite clique, cette petite coterie dont je viens de parler, a mis son veto et ça n'a pas eu lieu. Non, la situation, et curieusement, on n'imagine pas ça souvent, mais la situation est souvent bien pire dans nos pays qu'elle n'est aux États-Unis.
On n'imagine pas du tout, Paul Jorion. Moi, j'ai aucune idée de tout ça. C'est-à-dire que... En gros, aujourd'hui, si vous ne vous inscrivez pas dans la pensée libérale, néolibérale, vous n'avez pas voix au chapitre dans le monde universitaire?
Non, pas en économie, certainement. Vous pouvez dans les marges, vous pouvez éventuellement, et encore, c'est pas le cas, puisque j'ai une expérience personnelle dans ce domaine-là, même si vous êtes dans les marges, même si vous êtes dans un département de droit, comme c'était le cas, l'opposition parvient quand même à se débarrasser de vous. Non, ce qu'on n'imagine pas, c'est que, comme je viens de le dire, par exemple, vous savez, on parle du TIP, qui est le traité transatlantique, oui. Et ce ce qu'on ne sait pas en France généralement, c'est que les États-Unis se défendent contre ce traité, en particulier en domaine financier, en raison de l'ultralibéralisme des positions européennes, qui n'est pas celui des États-Unis. Madame Yellen, qui est à la tête de la Federal Reserve, c'est une keynésienne. Son mari aussi, Monsieur Rogoff, prix Nobel d'économie. Non, non, je dirais, cette pensée d'extrême droite a pris le pouvoir en Europe bien davantage encore qu'aux États-Unis. Et en particulier par l'intermédiaire de ce que vous appelez tout à l'heure la Troïka, c'est-à-dire Commission européenne, Banque centrale européenne.
Et FMI. Il a pris totalement le pouvoir, parce que c'est vrai qu'on critique très souvent le FMI, disant que finalement il est au service quasiment du néolibéralisme.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment la théorie économique dominante aujourd'hui au FMI.
Vous avez vu peut-être, c'était en 2012, j'ai bon souvenir, l'économiste en chef de FMI a dit qu'ils avaient fait Olivier Blanchard, ils avaient fait une erreur grossière qui n'aurait pas, si on n'avait pas fait cette erreur, on n'aurait pas dû prôner l'austérité. Quelle différence l'a fait dans la politique du FMI? Absolument rien. L'économiste en chef dit qu'il y a une erreur grossière qui a été faite. Aucune conclusion, aucune conséquence n'en est tirée. Non, ce sont des blocs idéologiques. On avait pensé que l'ultralibéralisme serait mis sur la sellette, qu'il perdrait de son pouvoir et de son prestige après les événements de 2007-2008. Il n'en est absolument rien. Ils sont toujours là. Ils ont eu d'ailleurs l'idée que finalement, c'était pas à cause d'eux, que c'était probablement qu'il y avait encore trop d'États et je ne sais quelle autre histoire. Il faut bien le dire, 2007-2008, c'est le démenti de la main invisible d'Adam Smith. C'est quand les choses s'écroulent, l'intérêt égoïste de chacun contribue et précipite l'effondrement et ne participe pas du tout à l'intérêt général.
Je précise peut-être pour les auditeurs, mais cette bévue du FMI, en gros, on a un chiffre qui est le multiplicateur budgétaire. Si j'ai bien compris, quand il est inférieur à 1, il faut que l'État en question diminue ses dépenses, alors que quand il est supérieur, il faut suivre une politique de relance. Donc c'est évidemment un aveu terrible de la part du FMI que de dire qu'il s'est trompé, qui nous invite d'ailleurs à nous interroger sur la légitimité, sur le poids dont il est raisonnable, qu'il est raisonnable de lui accorder dans les différentes politiques économiques des États-nations. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est quand même assez frappante, c'est que les États conduisent finalement leur politique économique en s'appuyant assez largement sur ces institutions, qui par ailleurs n'ont pas grand-chose de démocratique, pour pas dire rien du tout de démocratique. On s'appuie sur ces experts pour qui, en réalité, la règle d'or est la non-intervention. Quelque chose de totalement incroyable.
Oui, ce n'est pas vraiment la non-intervention. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans le cas de la Grèce récemment. Non, non, il faut savoir.
Il faut laisser faire le marché pour ces néolibéraux.
Laisser faire le marché, mais à l'aide aussi, il faut bien le dire, de toute une organisation étatique qui construit le marché d'une certaine manière. Le marché, ce n'est pas une chose spontanée. Il y avait des marchés dans l'Antiquité avec des prix fixes. Et ce n'est pas, le marché tel qu'il est conçu par le libéralisme et l'ultralibéralisme, c'est un marché entièrement organisé par l'État par derrière, ou par l'État ou par la banque, la Commission européenne, etc. Tout le monde sait, les Anglais se plaignent en ce moment du pointillisme de bureaucratique de l'action européenne. Non, non, les bureaucraties, les États, ce n'est pas le problème. Non, ce qu'il s'agit dans cette idéologie-là, c'est mettre l'État, tout le pouvoir de l'État, au service uniquement d'une aristocratie de l'argent. Ce n'est pas supprimer l'État, comme on le dit parfois.
Et dans quelle mesure cette erreur du FMI, cette erreur de calcul, remet-il en question la validité accordée aux théories néolibérale et à ses calculs et autres prévisions?
C'est-à-dire que dans le cas de ce multiplicateur, en effet, on avait fixé, les gens de l'ultralibéralisme qui avaient dit que puisque les banques centrales ont la possibilité de modifier le taux d'intérêt, le chiffre du multiplicateur devait être fixé à tel niveau. Mais c'est très typique, c'est-à-dire qu'on fixait le chiffre sans vérifier dans l'économie comment ça se passait. Ce qu'a fait Monsieur Blanchard, c'est aller voir comment ça se passait vraiment dans l'économie. Mais le propre de cette sciences économiques essentiellement créées, il faut bien le dire, dans les écoles de commerce et pas tellement dans les facultés universitaires, c'est qu'elle s'est blindée contre l'information par les faits. On ne peut plus, ça a été expliqué récemment par des prix Nobel d'économie, on défend la théorie contre les faits. Monsieur Scholz, qui a eu un prix Nobel d'économie, quand on lui souligne le fait que son modèle était, qu'on savait que le modèle de Black & Scholes était faux depuis le début, il le dit, mais moi aussi, bien entendu, mais je ne pouvais pas ajouter le facteur supplémentaire qui aurait remis en question la théorie précédente. Voilà comment ces choses fonctionnent, c'est-à-dire à l'inverse de comment fonctionne une science. Une science ne peut pas résister indéfiniment à des faits qui la contredisent.
Ouais, vous parlez de science-économie. Vous expliquez dans votre livre « Pensez tout haut, l'économie avec Keynes » qu'il y a un moment, en l'occurrence les années 1870, où il va y avoir un tournant faisant de la pensée économique une supposée science économique. Vous écrivez « Depuis cette époque, une réflexion qui était jusque-là authentiquement de nature scientifique s'est dévoyée, singeant avec une détermination croissante les signes extérieurs de la scientificité, mais s'éloignant en réalité de ce qui serait une réelle démarche scientifique. Pourquoi ce tournant ? Pourquoi est-ce qu'il apparaît à ce moment-là et quelles en sont les conséquences ?
Ben, ce sont des gens comme Walras en France et en Suisse, Menger en Allemagne, Jevons en Angleterre. Il y a des gens de bonne foi parmi eux, mais il y a aussi une volonté délibérée de faire deux choses. D'abord de mimer la scientificité. Et de quand on remplace une dynamique économique en termes de classe sociale, de conditions qui sont en interaction les unes avec les autres, pas en remplaçant tout ça par un homme économique, homo economicus, dont les choix sont simplement fondés sur l'utilité, ce remplacement qui élimine tout problème politique, on ne parle plus du tout de propriété privée, on ne parle plus de rapport entre les classes, etc. Cela permet une chose, ça permet d'utiliser le calcul différentiel. Et d'une certaine manière, c'est l'invasion par les méthodes mathématiques. Mais ceci dit, un monsieur comme Karl Menger, il décrit son projet. Il décrit son projet, il invente, le terme n'existe pas encore, ce qu'on appelle maintenant l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il n'y a pas d'effet collectif. Et si on définit comme un axiome dans sa théorie qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas de problème collectif, qu'il n'y a rien n'apparaît à un niveau par émergence de niveau inférieur, bien entendu, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de rapport de force, c'est le moyen d'éliminer toute dimension politique dans l'approche. Et c'est écrit comme un dogme, c'est-à-dire on va inscrire ça, c'est comme ça que fait l'économie. C'est-à-dire que l'économie va, elle se dit souvent psychologique, mais en réalité elle élimine toute sociologie, elle élimine toute réflexion psychologique. Ça a changé, en 2002, quand on a donné à M. Kahneman un prix Nobel d'économie, parce qu'il avait prouvé justement que l'homme et la femme, dans ses interactions habituelles, ne se conduit pas du tout comme cet homme rationnel, economicus, que c'est le contraire. Ignorance de l'histoire, ignorance de la sociologie, ignorance de la psychologie. Non, c'est un discours doctrinaire, dogmatique, et dont le projet est purement politique, et c'est un projet antidémocratique.
Et pour sortir de tout cela, pour reconstruire finalement la théorie économique, vous proposez-vous de repartir de l'œuvre de Keynes, justement. Pourquoi sa pensée serait-elle plus susceptible qu'une autre de redonner son caractère scientifique à la théorie économique ?
Eh bien, sincèrement, je dirais parce qu'il n'a pas de formation économique. Alfred Marshall, un des grands représentants de l'économie classique, avait proposé au père de Keynes de devenir son assistant, alors que le père de Keynes avait une formation en économie. Il faut dire qu'on a une époque là à Cambridge où il n'y a pas encore de faculté d'économie, mais il y a des cours d'économie. Il propose ça au père. Le père n'en veut pas, il devient administrateur d'université. Alfred Marshall, une génération plus tard, il retente son coup avec le jeune Keynes, qui a une formation de mathématiques. Il est en train d'écrire un traité de probabilité, qui est d'ailleurs un livre remarquable. Il propose au jeune Keynes, qui vient de rater une tentative d'entrée dans un collège, il lui propose un poste, on dirait un poste d'assistant ou de maître de conférence à Cambridge, et Keynes l'accepte, et on a fait le calcul récemment, et il a à peu près 8 semaines d'enseignement en économie, et il va se lancer. Mais c'est quelqu'un d'absolument brillant, il va découvrir très vite ce qu'il faut faire, il lit les manuels assez rapidement, et puis il va élaborer sur une période d'une vingtaine d'années, il va créer sa propre théorie économique et aussi, surtout, il faut bien le dire, il s'entoure d'un certain nombre d'étudiants thésards, de jeunes professeurs, il fait venir Sraffa qui doit quitter l'Italie à cause de Mussolini, il fait venir des gens très intéressants autour de lui et une espèce, de cerveau collectif qui va fonctionner et qui va produire en particulier sa grande théorie générale sur la monnaie, l'intérêt et l'emploi.
Et voilà. Pourquoi cette théorie serait plus scientifique ? Au sens elle aurait plus de légitimité du point de vue de son caractère scientifique que d'autres économies.
Non, elle n'est pas très scientifique.
Oui, d'ailleurs, vous admettez qu'il y a quelques insuffisances dans ce travail.
Oui, c'est fait de briques et de brocs, c'est fait de l'influence de tel ou tel étudiant qui aura lui-même un prix Nobel plus tard. Il y a là des gens remarquables. C'est le travail, d'un séminaire. Mais c'est surtout, ce qui en fait quelque chose de scientifique à proprement parler, c'est qu'on reprend le problème à zéro. C'est-à-dire, on sort de tous les dogmatismes. On prend on met les cartes sur la table et on dit comment est-ce que ça marche. Et alors, je dirais, c'est pas mal du tout, bien entendu, c'est un grand ouvrage d'économie, mais c'est pas parfait non plus, parce qu'on est obligé de réinventer. En fait, on renoue avec la réflexion qu'il y avait avant les années 1870 et qu'on appelait l'économie politique. Et là, on faisait c'était une réflexion qui venait de la philosophie, des sciences morales, comme on dit. Mais Madame Smith, quand il écrit son grand livre, La richesse des nations, c'est quelqu'un qui est un philosophe, c'est-à-dire, et qui fait feu de flèche de tout bois. Il fait venir toute la connaissance qu'il peut. Et l'économie politique, c'est ça. Le dernier grand penseur, bien entendu, de l'économie politique, c'est Karl Marx, qui dans le sous-titre du Capital, c'est Critique de l'économie politique. Mais on est dans une réflexion où on fait venir tous les éléments. Il n'y a pas, je dirais, d'interdiction de penser de telle ou telle manière.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur les révolutions conservatrices aujourd'hui dans le sillage des Chicago Boys ou le néolibéralisme à l'épreuve avec Paul Jorion. On va parler à présent d'ordolibéralisme allemand, courant de pensée apparu donc en Allemagne dans les années 30, selon lequel la mission de l'État en matière économique est de garantir un cadre normatif permettant la concurrence libre et non faussée entre les entreprises. C'est ce qu'on appelle également l'école de Fribourg, puisqu'elle a été terrorisée par des professeurs de l'université de Fribourg, Walter Höcken et Franz Bohm. Aujourd'hui, l'homme qui incarne finalement ce courant, c'est le ministre fédéral des Finances depuis 2009, Wolfgang Schäuble.
La Grèce appartient à l'euro, mais naturellement, sur ce que nous devons faire maintenant, malgré une discussion très intense et ouverte, nous ne sommes pas encore vraiment d'accord. Mais comme le dirait un diplomate de formation, nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai pas, il est vrai, pu retenir mon scepticisme dans la discussion à propos de certaines des mesures annoncées par le nouveau gouvernement et qui ne vont pas dans la bonne direction. Mon homologue m'a affirmé qu'elles n'avaient pas encore été adoptées.
Voilà, Schäuble ne masquant pas ses différends avec celui qui, à l'époque, était le ministre des Finances du gouvernement Tsipras, Yanis Varoufakis. On accueille tout de suite Patricia Comin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'études germaniques à l'université Sergi Pontoise, auteur notamment de l'ordolibéralisme allemand. Alors, je le disais, Schäuble, il appartient à cette école de Fribourg. On va faire un tout petit peu d'histoire parce que lorsque, avant la guerre, ces intellectuels penseurs de l'économie libérale se retrouvent à Paris, justement, au colloque de Walter Lippmann, dont on parlait tout à l'heure avec Paul Jorion, on a des économistes allemands. À l'époque, tous s'accordent pour finalement désigner cet ennemi commun, c'est-à-dire le communisme, le fascisme, et puis également le New Deal de Roosevelt. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir des différences entre ces économistes allemands et les libéraux, disons, classiques, s'agissant du rôle de l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ces différences, les spécificités finalement de cet ordolibéralisme?
Moi, je vous remercie de me donner la parole et je crois que je vais rejoindre ce que disait tout de suite Paul Jorion à propos de Keynes. L'ordolibéralisme est un autre type de pensée hétérodoxe. C'est également une pensée hétérodoxe. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une nouvelle forme d'économie politique qui allie économie, histoire et droit, en principe, qui allie micro et macroéconomie. Et les ordolibéraux entendent par macroéconomie non pas les statistiques, des chiffres, etc., mais un cadre historique, géographique et culturel qu'ils ont emprunté à la pensée de l'école historique. C'est une pensée hétérodoxe, mais contrairement à celle de Keynes, est une pensée libérale. C'est une pensée qui reconnaît l'économie de marché concurrentielle comme le meilleur système d'allocation des ressources possibles. Je cite quelques noms, donc vous avez parlé de l'école de Fribourg, très justement, Walter Höcken était le chef de file, mais d'autres s'y associent. Ils ne faisaient pas partie de l'école de Fribourg, mais sont considérés comme des ordolibéraux. Je veux parler de Wilhelm Röpke, par exemple, ou d'Alexander Rustow. Et deuxième point, donc c'est une pensée hétérodoxe, mais une pensée libérale tout de même. Deuxième point, les ordolibéraux ont commencé leur réflexion dans les années 30, en pleine crise des années 20 et des années 30, et ce sont les premiers en Allemagne à avoir refuté l'idée de crise conjoncturelle, tout comme aujourd'hui. Ils disent non, on n'est pas dans une crise conjoncturelle, ils parlent de dépression secondaire ou de crise structurelle et de crise systémique, qui affectent l'ensemble du système économique et de la société. Mmh. Et à l'origine de cette crise, il voit bien sûr des éléments économiques et des éléments moraux. Alors par quoi la crise économique ? Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui a repris énormément d'actualité aujourd'hui. La crise économique, elle est causée par les monopoles, par la collusion des pouvoirs économiques privés avec les pouvoirs politiques, en particulier avec l'État en Allemagne. Et que l'on pense aujourd'hui, par exemple, à la collusion entre le pouvoir bancaire et l'État, qui est tout de même en partie à l'origine de la crise des subprimes aux USA, ou à la collusion des banques et des États en Europe aujourd'hui. Donc ça, c'est cette collusion du pouvoir bancaire et du pouvoir politique, ou du pouvoir économique, du pouvoir public, c'est quelque chose qui bloque l'économie de marché et qui est à l'origine de la crise. Voilà.
Vous restez avec nous, Patricia Comin, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser, mais je voudrais faire réagir Paul Jorion sur cet ordolibéralisme allemand, sur cette école de Fribourg à laquelle appartient aujourd'hui Wolfgang Schäuble. D'ailleurs, il est né à Fribourg et il a été à l'université là-bas. Réaction, Paul Jorion.
Ben, c'est-à-dire qu'on a vu justement dans cette Kolob Lippmann, et puis ensuite beaucoup moins dans la société du Mont-Pèlerin, mais surtout à l'époque de Kolob Lippmann, il y a des idées, il y a des gens qui veulent rénover le libéralisme, et il y a effectivement, comme le dit Audier, qui fait un très bon livre là-dessus, qu'il y a deux néolibéralismes. Il y a un néolibéralisme, je dirais, de type démocratique, une pensée de droite fondée sur l'idée du marché, l'idée de la concurrence, etc., qu'il faut situer le rôle de l'État à l'endroit où les libertés peuvent avoir leur extension maximale. C'est, comme je le disais, cet ordolibéralisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est une pensée démocratique. C'est une pensée de droite, mais c'est une pensée démocratique. Elle n'est pas du tout de l'ordre de ce que les gens comme von Mises, von Hayek feront. Et il y a déjà, au moment du colloque Lippmann, il y a déjà une opposition entre les deux. Je crois que s'il n'y avait pas eu le mot libéralisme en commun, ces gens ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Il y a une différence essentielle entre M. Schäuble, qui est un monsieur honorable, je dirais, et le Chicago Boys, qui sont des gens liés donc à des régimes autoritaires qui font beaucoup de morts.
Et c'est probablement parce que justement il y a cette dimension démocratique qu'on le voit présent dès le début du projet européen. Quand on regarde Patricia Comin, l'article 3 du traité de Rome de 57 instituant la communauté européenne qui fixe les objectifs, on voit un marché intérieur caractérisé par l'abolition entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, et un régime assurant la concurrence non faussée dans le marché intérieur. La concurrence non faussée, ça c'est le signe de l'ordolibéralisme allemand. On voit qu'il est présent dès la naissance du projet européen.
Tout à fait, vous citez le bon article et je vous en félicite. Par contre, on dit Schäuble, si je peux me permettre.
Pardon, voilà. Excusez-moi.
Voilà, et donc effectivement, la concurrence libre et non faussée est quelque chose de très important dans la pensée ordolibérale. Et la preuve que l'ordolibéralisme a trouvé, effectivement, a enfanté une organisation au niveau européen, c'est que c'est l'Office des cartels en Allemagne qui a été fondé donc en 1957, qui a été choisi comme modèle au niveau européen. Aujourd'hui, vous savez que la Commission européenne inflige régulièrement des milliards d'euros d'amende pour enfreinte à la concurrence des prix, par exemple, pour partage géographique des marchés ou entente lors d'appels d'offres. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui vient vraiment de l'ordolibéralisme allemand. Un deuxième point qui est très important pour les ordolibéraux au niveau européen, c'est l'idée d'un système monétaire stable, surtout pas d'inflation. Évidemment, on leur prête une phobie inflationniste, mais pour eux, pour ces ordolibéraux allemands, la stabilité monétaire permet une visibilité aux acteurs économiques et donc d'avoir des comportements stratégiques. Et ça, et je rejoins là aussi un élément que vous avez déjà cité, c'est la question de l'ordnungspolitik. Qu'est-ce qu'on appelle ordnungspolitik aujourd'hui en Allemagne? C'est pas forcément une politique ordolibérale telle qu'elle a été faite dans les années 50. C'est ce qu'on pourrait traduire en français finalement par politique stratégique, politique systémique. Voilà.
Je voudrais faire réagir Paul Jorion sur cette place de la concurrence libre et non faussée, qui est, j'allais dire, quasiment l'ADN de l'ordolibéralisme allemand dans le projet européen. Paul Jorion, vous vouliez réagir?
Oui, c'est ça. Mais je voulais signaler un autre ouvrage de Ordo et Laval sur le nouvel ordre économique, qui est un développement par ces deux chercheurs français d'idées qui ont été lancées par Michel Foucault et qui étaient excellentes dans l'analyse en France, je dirais, de ce qui s'est passé en Allemagne. Et Foucault, dans un cours au Collège de France, il attire l'attention sur le fait suivant. Nous sommes en 1945, il faut rebâtir une Europe et on dit aux Allemands, ne vous mêlez surtout pas de politique dans la nouvelle Europe qu'on va faire émerger, ne vous occupez surtout pas du militaire, on a déjà donné, et occupez-vous à établir, à créer un marché, un marché, concentrez-vous sur l'économie. Et ils le font, et on le sait, les premières, d'abord, il faut intégrer l'argent qui vient du plan Marshall, c'est-à-dire tout ça est fondé sur les catégories comptables américaines, il y a les accords du GATT, on est en 47, en 48, il y a, on crée la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, tout ça, le marché commun ensuite, tout ça sur la base d'un marché. Effectivement, cet ordo-libéralisme, je dirais, triomphe d'une certaine manière. C'est lui qui va diriger la manière dont on va constituer l'Europe qu'on a maintenant avec Commission européenne, le Parlement européen, Banque centrale européenne.
Et puis un tout petit mot sur la question du monétarisme, parce que Patricia Coman nous disait qu'effectivement ces Allemands sont obsédés finalement par la stabilité du système monétaire. Vous dites-vous que la politique monétaire des États-Unis, de la Réserve fédérale, suivie notamment depuis, disons, une dizaine d'années, c'est une véritable menace?
Oui, c'est ça, c'est parce qu'en 1944, donc aux accords de Bretton Woods, on accepte le plan américain. Il y a un plan qui est proposé par Keynes au nom de la Grande-Bretagne, qui est un plan qui met tout le monde sur le même pied, qui est un plan qui veut amener la paix économique entre les nations, que les plus riches ne puissent pas imposer leurs lois, comme on le voit maintenant, aux plus faibles. Mais c'est le plan américain qui va gagner. C'est-à-dire que le dollar va avoir une place différente des autres monnaies à l'intérieur du système. Il va devenir une monnaie d'échange. On va utiliser des dollars, qu'on appellera ensuite des euro-dollars, en dehors des États-Unis. Et la raison pour laquelle ça se passe de cette manière-là, c'est essentiellement parce que la puissance économique des États-Unis, elle représente à ce moment-là, dans un monde complètement dévasté, les États-Unis n'ont pas eu la guerre sur leur territoire, l'économie américaine représente plus de la moitié de l'économie mondiale. Et donc, ça fait un sens aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, que le dollar soit la monnaie de référence. Il n'y a plus que cette économie qui marche en 1945. Tout le reste est à reconstruire. Mais du coup, ça déséquilibre jusqu'à maintenant encore la situation mondiale. Et en particulier au moment où en 71 Nixon dénonce les accords de 1944 et où ça devient la foire d'empoigne comme on le voit maintenant à l'échelle mondiale.
Merci beaucoup en tout cas à Patricia Coman d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle vous votre ouvrage L'ordolibéralisme allemand qui était paru en 2003. Un grand merci d'avoir été avec nous. On a commencé avec le Chili, Paul Jorion. On va boucler la boucle et prendre la direction de l'Argentine.
Je veux vous dire que cette journée est historique. C'est un changement d'époque. Comme je vous l'ai dit, et vous m'avez cru, ça va être merveilleux. Je serai le président de ceux qui pensent différemment, le président de la diversité, le président de ceux qui ont de nouvelles idées. Je veux être le président de ceux qui ne renoncent pas, le président qui lutte contre le narcotrafic, et qui ne laisse pas les politiques, la justice et les fonctionnaires être corrompus. Je veux être le président qui met tout le pays au travail.
Voilà Mauricio Macri, le nouveau président de l'Argentine, rupture ou pas en matière économique. Bonjour Carlos Kenan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Alors, s'agissant de l'économie, voyons un petit peu ce que Macri a fait déjà. Alors, effectivement, ça fait pas beaucoup de temps qu'il est en place, mais janvier dernier, quand même, il est allé à Davos à l'occasion du Forum économique mondial. Il s'inscrit en ce sens totalement en rupture avec ses prédécesseurs, à la fois Christina Kirchner et avant elle, feu son mari Nestor, qui ne s'y était jamais rendu. Le signe probablement que le nouveau président argentin veut tourner la page de cette politique protectionniste qu'on a eu pendant ces 13 années de l'ère Kirchner. Quelles sont, selon vous, Carlos Kenan, les grandes évolutions à attendre de Macri dans les affaires économiques? Est-ce qu'on peut dire que finalement l'Argentine devrait effectuer une sorte de virage néolibéral?
Disons que le président Macri, en effet, est à la tête d'une inflexion dans l'évolution de l'orientation politique et surtout économique de l'Argentine, avec annonçant justement une perspective beaucoup plus libérale. Je ne sais pas si on peut qualifier ça comme virage néolibéral. En tout cas, il faut plus d'éléments pour conclure ça. Mais en tout cas, il affiche une orientation plus libérale dans la gestion économique d'ensemble, en essayant justement de renouer avec les centres de pouvoir économiques occidentaux, avec l'Europe occidentale, avec les États-Unis.
Vous avez l'air d'hésiter pour qualifier le virage néolibéral, mais quand on voit la série de réformes, fin des taxes sur les exportations des biens agricoles, suppression des impôts à l'exportation des produits industriels, suppression du contrôle d'échange, dévaluation du peso, ça ressemble quand même à un virage néolibéral, ça, non?
Bah, disons que certaines mesures auraient dû être adoptées peut-être de manière plus gradualiste par n'importe quel gouvernement. Par exemple, je pense à un ajustement du taux d'échange qui, en fait, était sans s'imposer et parce qu'il y avait un certain nombre de tensions à ce niveau-là. Et pour le reste, effectivement, non, il y a des éléments de libéralisation et la conception est d'abord dans ce sens-là. Mais bon, l'optique néolibérale ou l'approche néolibérale qu'on a connue dans les années 90 était assez intégrale avec des privatisations, avec toute une série d'éléments qui ne sont pas pour le moment mis en avant de manière claire. Je pense donc qu'il y a cette orientation qui cherche à effectivement libéraliser, disons, plus la vie économique de l'Argentine, à peut-être conclure des choses que le gouvernement de Cristina Kirchner était en train d'essayer d'accomplir, c'est-à-dire la normalisation des relations financières internationales, qui n'est pas forcément un signe de libéralisme ou de néolibéralisme, c'est-à-dire bon, à pouvoir accéder à des prêts internationaux dans des conditions normales. L'Argentine avait été un peu au banc de ces marchés.
À cause de son défaut de paiement de 2001, on s'en souvient.
Voilà, oui, il y a eu deux phases de restructuration et il y avait une dynamique lancée déjà dans les dernières années par la présidente Kirchner, par exemple, négociation et régularisation de la situation avec les clubs de Paris qui concentrent les créanciers publics. Mais tout cela avait été en quelque sorte contré par ces conflits avec les fonds vautours, avec le hold-out, une petite partie minoritaire des créanciers qui n'étaient pas entrés dans la restructuration de 2005 et 2010. Bon, sans doute, cette perspective, disons, le gouvernement Macri cherche à aller dans le sens d'accomplir ce processus de normalisation avec ces fonds vautours, ce qui n'est pas donné, n'est pas facile, parce que, indépendamment du fait que, pour ces créanciers, disons, le gouvernement Macri apparaît comme étant plus proche de ces options, et probablement est moins dur dans la négociation que le gouvernement précédent, il y a des points de conflit malgré tout, disons.
Sachant que la normalisation, elle avait déjà commencé évidemment sous Kirchner, parce qu'il y avait un accord qui avait été trouvé entre Buenos Aires et le Club de Paris, qui s'était engagé à verser une partie de la dette, mais c'est vrai qu'il y a toujours un conflit judiciaire avec ces fameux fonds vautours. Paul Jorion, réaction sur cette Argentine.
Oui, comme vous le disiez, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer dans avec ce nouveau type de gouvernement. Ce qui est intéressant, en fait, en Amérique latine, en Amérique centrale, ben c'est ce bolivarisme qui a été lancé par un certain nombre de personnalités. C'est surtout lié à des personnalités. Et quand cette personnalité disparaît, on le voit dans du Venezuela, parfois ces tentatives échouent ou périclitent. Mais il y a cette idée de remettre au centre des choses quand même très importantes, de déprivatiser. Et là, il y a apparemment un renversement de M. Macri. Déprivatiser, on se souvient de l'expérience de l'Équateur sur l'eau qui avait été entièrement privatisée, de renverser la tendance, de remettre au centre les communs. Une chose qui a été, sur laquelle on attirait l'attention à propos de l'ultralibéralisme, c'est que c'est un système mortifère au niveau de la planète. C'est que quand des régimes ultralibéraux arrivent au pouvoir, ils détricotent en général les règles sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une politique de colonisation extrême, en utilisant le mot de colonisation pour décrire l'espèce que nous sommes, qui est une espèce colonisatrice qui envahit son environnement sans se soucier de renouveler cet environnement. Toute cette pensée ultralibérale est une pensée de destruction de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a des profits à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de long terme. Or, là, justement, un certain nombre de régimes en Amérique latine, en Amérique centrale, ont essayé de renverser la tendance, de protéger l'environnement, parce que effectivement, il n'est pas renouvelable. Il faut renverser la tendance. Ce qu'il y a, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été fort lié, c'est encore fort lié à des personnalités. C'est souvent lié, je dirais, à une certaine, comment dire, retour d'une identité nationale liée à la population amérindienne. Il y a des choses très intéressantes, il y a aussi des échecs, il faut le dire, lamentables. Ce qui se passe en Argentine, c'est un mouvement un peu dans l'autre sens, mais comme vient de le dire notre intervenant, il est trop tard de dire que c'est un renversement de tendance absolument total. Il faut un peu voir.
Carlos Kenan, tout dernier mot, s'il vous plaît. Et puis c'est vrai qu'on arrive au terme de cette émission, donc je vous demanderai peut-être faire une réponse brève, si vous le voulez bien. On a commencé avec cette expérience chilienne, soulignant effectivement l'influence de cette école de Chicago dans ce Chili. L'une des critiques formulées à l'égard du système Kirchner, c'est que les décisions économiques étaient prises de façon totalement discrétionnaire, sans aucune consultation, sans aucune communication auprès de l'opinion. Qui sont finalement les conseillers de Macri? Et à quelle famille ils appartiennent? Est-ce que c'est justement des héritiers de l'école de Chicago? En quelques mots.
Bah écoutez, disons en premier lieu, je partage complètement l'idée qu'il y a une crise de leadership, disons, et que ça associé à la fin d'un cycle économique de prospérité lié au prix des matières premières, etc., ça va donner des changements politiques selon les pays qui peuvent aller un peu dans un sens contraire à celui qui avait été mis en place précédemment. Pour ce qui est des conseillers économiques et de l'équipe du président Macri, c'est vrai qu'une question qui suscite déjà des critiques importantes en Argentine, c'est que ce sont essentiellement des hauts représentants des grandes entreprises, des CEO ou des PDG ou des anciens PDG, donc qu'il y a un personnel politique qui est très lié au monde des affaires et que ça préjuge d'une orientation qui va être probablement favorable à ces secteurs-là. Mais d'un autre côté, et justement pour renforcer cette idée que...
Très vite, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais je vous laisse conclure.
C'est pour conclure, c'est que il faut voir la réaction de la société argentine aussi. Et quelles vont être, par exemple, il va y avoir un test fondamental, qui c'est les négociations collectives de salaires, où effectivement là, il y aura un bras de fer entre syndicats et différents secteurs de la population et le gouvernement pour ce qui est de cette question-là.
Je vous remercie infiniment, Carlos Kenan, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage « Les enjeux du développement en Amérique latine ». Paul Jorion, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin sur ce néolibéralisme. Je rappellerai pour nos auditeurs, notamment ces ouvrages-là, « Penser tout haut, l'économie avec Keynes », parce qu'on en a parlé aujourd'hui, c'était chez Odile Jacob. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci à vous.
Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant, c'est La Vie Moderne sur France Culture. Très belle journée, à demain.